CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAG où aujourd'hui on va vous proposer une visite guidée pour ce dimanche. Une visite guidée dans un cimetière. C'est organisé par La Mounière, la maison des mémoires de Sept-Fonds. Une visite intitulée « Mémoire d'outre-tombe ». Une visite singulière pour la Toussaint dont on vous parlera dans la deuxième partie de ce MAG. Puisque pour la première, c'est comme d'habitude, c'est la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques avec Victor Le Guénec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause temps envolé pirate et crocodile, avec non pas une œuvre, mais un personnage, présent sous différentes formes dans notre culture populaire, qu'elle soit théâtrale ou romanesque, cinématographique ou dessinée, en jeu de société et autres vidéoludismes. Et bien entendu, capitalistiquement dérivé sous toutes les formes possibles et imaginables. Il s'agit, je vous le donne à mille, de Peter Pan. Personnage emblématique, figure incontournable, à la fois célèbre et méconnue. Alors aujourd'hui, on fait un petit point sur le personnage et ses occurrences. Peter naît en 1902 sous la plume de James Matthew Barrie. D'abord, petite apparition dans le roman Le Petit Oiseau Blanc, pour véritablement éclore et se développer dans la pièce de théâtre Peter et Wendy, au succès immédiat et colossal, qui poussera l'auteur à en faire un roman plus étoffé. James Matthew Barrie, 9e et avant-dernier enfant d'une famille d'ouvriers, grandira sous l'influence des histoires racontées par sa mère. Mère qu'il essaiera de consoler de la perte de son fils préféré. Il portera le deuil à sa place en essayant de remplacer son frère à ses yeux. Le tout en recréant des histoires, souvent niant le temps qui passe, par culpabilité du survivant, pour se concentrer sur l'enfance. En 1897, il se lie d'amitié avec la famille Llewellyn Davis et leurs 4 gamins, dont il deviendra le tuteur. Et c'est pour eux que James créera le personnage de Peter Pan, mioche pour le moins taquin et espiègle, s'opposant comme protecteur de l'enfance, et non pas des enfants. La nuance est subtile, mais plus qu'importante. Tout cela en vend une haine farouche, et là, je fais mise aux adultes et à leurs dérives autoritaires. À Neverland, une légende dit que si l'on respire très fort, des adultes meurent. Alors Peter Pan s'amuse à halter le plus vite possible pour en tuer le maximum. Un charmant bambin. L'histoire originelle commence un vendredi soir. Venu récupérer son ombre, abandonné lors d'une précédente visite chez la famille Darling, Peter se trouve face à Wendy. Et avide des histoires qu'elle pourra lui raconter et du rôle de mère fantasmée qu'elle pourrait accomplir pour les enfants perdus, qui, de temps en temps et au grand désespoir de Peter, se rappelle avoir eu un jour une mère. Il la persuade alors de le suivre jusqu'au pays imaginaire, qui, en passant, est une traduction certes nécessaire, mais qui perd de son sens de Neverland, le pays de jamais. Alors commencent de formidables aventures auxquelles sont mêlées des sirènes, des fées, des brouges avec Lily la tigresse, mais surtout les pirates et leur chef, le capitaine Crochet, qui n'a jamais pardonné à Peter de lui avoir coûté la main avant de la jeter en pâture avec son réveil au crocodile, qui le poursuit depuis sans trêve. Ça, c'est le décor. Mais derrière le ton enfantin se cache la véritable monstruosité d'un personnage qui n'a aucune morale ni aucun remords, oubliant systématiquement son passé, n'apprenant donc jamais rien, oubliant ses torts, ses amis, les enfants perdus, Wendy. Un conte pour enfants ? Peut-être, mais certainement pas un conte enfantin. Car c'est l'histoire d'un gamin qui se crée son armée d'enfants soldats pour affronter l'image de l'adulte, de la vie et donc de la mort. On s'imagine souvent Peter récupérer les enfants tombés du berceau ou abandonnés. Alors oui, il y en a, mais régulièrement, c'est lui qui les fait se perdre pour mieux les retrouver. Et quand les enfants grandissent, il les tue. S'ils deviennent trop gros pour se glisser discrètement dans le repère des pirates, alors il les modifie. Et d'ailleurs, pour éviter cela, les affame régulièrement en leur demandant d'imaginer les repas qu'ils n'ont pas. Scène que l'on retrouve dans l'adaptation de Spielberg. Il est profondément égoïste et a perdu la notion de temps en étant bloqué depuis des années sur cette île. L'île de Neverland est dangereuse. Et l'on peut classer par ordre de grandeur les dangers. D'abord, en bas de l'échelle, les animaux qui errent dans la forêt. Les peaux-rouges, tantôt alliés, tantôt ennemis de Peter, viennent ensuite les sirènes, puis Clochette, et enfin le capitaine Crochet et ses pirates. Et, pardon, j'en oublie un, qui plane au-dessus des autres. Loin, Peter lui-même, le personnage qui maintient le chaos sur l'île pour son seul amusement. Car quand il n'est pas là, et là, je cite, « Pendant son absence, les fées allongent leur grasse matinée. Les peaux-rouges festoient, les enfants perdus et les pirates ne songent pas le moins du monde à se faire la guerre. Mais à son arrivée, tout le monde reprend son rôle. » Peter est l'image même du conflit. Pendant les batailles avec les Indiens, il change régulièrement de camp, causant autant de morts chez les Indiens que chez les enfants perdus. Et sa haine réciproque pour le capitaine et les pirates suggère qu'ils sont potentiellement des anciens enfants perdus qui ont fui et grandi avant que Peter ne les tue et qui lui en veulent inconsciemment tout en ayant oublié pourquoi. Le pays imaginaire a ses conséquences. Et Peter connaît lui-même qu'il n'a pas le moindre souvenir de ses enfants morts, enfuis, perdus à jamais. Il oublie son histoire. Il ne sait rien sur lui-même et c'est absolument terrible. Il oublie tout le monde et ceux qui grandissent l'oublient aussi. C'est une histoire où cette notion de mémoire et de gommage de ce qu'il s'est passé est d'une tristesse effroyable. Mais ça rejoint finalement la question du passage de l'état d'enfance à l'âge adulte. On oblitère l'enfance, on gomme l'enfance. Quand on devient adulte, on mûrit. Ce que Peter ne fait pas. Il est l'inconséquence. À la fin du roman, il a tout oublié. Wendy, Clochette, le capitaine. Et s'en moque éperdument. Bien. On a planté l'atmosphère. Voyons les différentes adaptations, qui ont bien sûr apporté une vision autre du personnage et de son ambiguïté. D'abord la version de Disney, celle qui, aujourd'hui encore, reste la plus présente dans l'imaginaire collectif, qui en fait un gamin, certes farceur, mais bienveillant, le fantasme d'une jeunesse à jamais perdue. Si l'animation en elle-même est somme toute assez réussie, le fond s'éloigne beaucoup du Peter originel, pour offrir toutefois un divertissement daté, certes, mais tout à fait regardable. Spielberg, déjà cité plus haut, en a fait une suite cinématographique, Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, où l'on retrouve Peter devenu adulte, qui, comme de bien entendu, a tout oublié de son histoire, et qui vit à Londres avec ses enfants, kidnappés par le capitaine Hook. C'est une vision plus moderne de Peter, plus positive, même si assez noire, par moments superbement réalisée. Et au début, en tout cas, assez fidèle au personnage, qui ne s'intéresse qu'à lui-même en ne s'occupant de ses propres enfants que quand l'envie lui vient. Avec un Robin Williams en forme dans le rôle de Peter, Julie Roberts nous joue une clochette au sourire gigantesque, pour le moins gentil, et dans ce cas-là, bien éloignée du personnage de Barry, extrêmement jalouse et prête à tuer toutes les filles qui s'approchent de notre héros. Et enfin, un capitaine Crochet campé par Dustin Hoffman en bonnet du forme. Ça virevolte dans tous les sens, les références à l'œuvre de départ sont pléthores et tout à fait bienvenues à revoir sans hésitation. Plus tard, arrive en France l'adaptation de Loisel en une série de BD de 6 tomes, où cette fois on prend connaissance du passé de Peter, avant Lille, dans les rues de Londres, puis ses débuts. Et si Loisel a dit surtout s'inspirer du Disney, les personnages sont très fidèles au roman, à Peter, absolument machiavélique, qui voue une haine farouche envers les femmes, les adultes et presque tout ce qui l'entoure. Ici, Peter n'est pas encore Pan, qui est un autre personnage. Le capitaine n'est pas encore Crochet, car pourvu de ses deux mains. Cette adaptation est d'une noirceur rarement égalée. C'est profondément dur et triste, extrêmement violent, physiquement et moralement. Peter, dans la BD, est même indirectement associé à Jack l'Éventreur. On le voit en même temps qu'un autre éventreur potentiel sur les lieux des crimes, armé ou juste après, les mains en sang. Peter tue. Il ne s'en fait pas plus que ça, sachant pertinemment qu'il oubliera. La BD est magnifique, le dessin de Loisel toujours aussi accrocheur, et en reprenant les codes graphiques de l'univers de Dickens, il nous plonge tout de suite dans son monde non pas féerique mais monstrueux. Aucun personnage ne trouve grâce aux yeux de Loisel, et somme toute, ça complète parfaitement l'histoire de base, à lire et relire sans hésitation. Une autre BD vient de paraître sous la plume et les pinceaux de Munuera, qui nous narre, elle, la première adaptation de Peter dans les jardins de Kensington. BD qui va venir compléter cet univers riche, sordide, espiègle, fantastique, qui reste et restera à jamais un des contes horrifiques les plus fantasmés par la culture populaire. Alors si vous voulez plonger avec les sirènes, voler avec Peter, mourir avec le capitaine ou les enfants perdus, venez vite dans votre réseau des médiathèques favoris. Empruntez le roman de Barry en livre ou en audio, le film Hook de Spielberg ou celui de Disney, ainsi que les deux BD, le Peter Pan de Loisel et le Peter Pan de Kensington par Munuera. Venez redécouvrir ce monde, réexplorer l'île imaginaire, peut-être aussi ruiner vos souvenirs d'enfance, mais vous ouvrir à un tout autre univers. Car, je vous assure, nous n'avons fait qu'effleurer la profondeur du personnage. Sur ce, je vous laisse, et surtout, grandissez.
La chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques, c'est tous les mardis, depuis CFM Quélus, avec Victor Le Guénec, qu'on retrouve donc mardi prochain. Ou en podcast sur le site de CFM Radio. Super.
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag à propos de cimetières. Une visite est organisée par La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds. Ce dimanche, mémoire d'outre-tombe, une visite du cimetière dont va nous parler Romy Barenne. Bonjour Romy.
Bonjour Lisa.
Guide conférencière pour La Mounière, la maison des mémoires de Sept-Fonds. C'est vous qui l'avez préparé, cette visite autour des tombes donc et des cimetières.
Tout à fait. Et alors c'est une visite donc qui a été préparée par donc la Mounière, hein, maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds où je travaille. Et donc c'est une visite qui a été réalisée aussi en collaboration avec le service inventaire du pays Midi-Quercy. Et effectivement, l'idée de cette visite qui est quand même un petit peu spéciale, eh bien c'est de montrer que le cimetière de Sept-Fonds en fait c'est vraiment un témoin de l'histoire du village, de ses métiers, de son développement, de ses mémoires, voilà.
Alors à travers quoi les noms et les pierres? Les pierres tombales?
Alors, oui, alors en fait on va c'est une visite qui va se faire en déambulation dans le village. Donc évidemment il y aura une partie où on ira au cimetière pour aller voir certains tombeaux, voilà, notamment des tombeaux des grandes familles chapelières. Mais la visite, ça va aussi être l'occasion en fait de parler des dolmens de Sept-Fonds, qui témoignent d'une occupation déjà très ancienne sur le territoire et qui sont en fait donc des tombeaux bien avant l'apparition de nos cimetières, voilà. Et ces dolmens qui témoignent aussi de la qualité en fait des bancs calcaires sur Sept-Fonds. Cette pierre locale que l'on retrouve aujourd'hui dans le village parce qu'elle a servi à la construction des maisons et aussi qu'on retrouve au niveau du cimetière parce qu'elle a aussi servi à la construction de certains tombeaux. Et il y aura aussi un passage au niveau de la mairie de Sept-Fonds parce qu'on va aller admirer un tableau qui a été réalisé par un artiste qui était réfugié espagnol et qui a été interné au camp de Sept-Fonds entre 1939 et 1940. Et ce tableau, en fait, il illustre le travail des tailleurs de pierre, pardon, parce qu'on a eu beaucoup de carrières de pierre sur cette fonte. Et donc ensuite, on ira au cimetière pour déjà l'observer, s'intéresser aussi à ces phases d'évolution, en fait, et aller voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains tombeaux.
Alors c'est pas du tout une visite d'Halloween, hein. C'est vraiment une visite autour de l'histoire du village, on le disait, visite guidée, ce dimanche à partir de 15h30, donc sur un tarif de 5 €. Vous nous parliez géologie, hein, et puis histoire avec donc ces métiers tailleurs de pierre, il y en avait tout un paquet à Sept-Fonds, c'était vraiment un des métiers les plus courants avec donc la fabrication du chapeau de paille, qui est une des thématiques qui est célébrée par La Mounière, la maison des mémoires. Est-ce que je viens de dire une bêtise?
Non, pas du tout. C'est ça, effectivement, l'activité chapelière, c'est un des métiers emblématiques de Sept-Fonds, avec celui des tailleurs de pierre, puisqu'on avait, c'est ce que tu dis, beaucoup de carrières de pierre sur le village. Et donc voilà, pendant la visite, on va revenir sur l'activité chapelière, parce qu'on va aller voir donc certains tombeaux de grandes familles chapelières, on va parler de ces carrières de pierre, et l'idée, c'est vraiment voilà de montrer en fait finalement que au niveau du cimetière, chaque pierre et chaque tombe, ça vient vraiment raconter l'histoire, alors autant des habitants, des familles, mais aussi en fait du village tout entier finalement.
Oui, parce qu'on voit les moyens financiers des familles. Si la tombe, c'est une croix brute en bois, ou alors si c'est un tombeau en marbre ou une croix en calcaire, il y a énormément de choses à voir dans un cimetière en fait.
Oui, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des tombeaux qui sont très richement ornés et beaucoup finalement à Sept-Fonds, ce qui est assez, ça peut paraître étonnant, mais c'est en lien avec le fait que voilà, Sept-Fonds a été une commune très prospère dans la seconde moitié du 19e siècle grâce à l'activité chapelière. Et donc voilà, en fait, les tombeaux témoignent aussi comme ça de l'évolution du village.
Qui dit cimetière dit tombeau, il y a aussi toute une ornementation, j'imagine, je pense aux couronnes de fleurs ou aux inscriptions sur les tombes qui peuvent donner des indices.
Oui, tout à fait, il y a des tombeaux qui sont beaucoup plus richement ornés que d'autres, sur lesquels il y a des sortes de petits textes qui sont écrits, qui nous permettent d'avoir une idée un peu de la personne qui s'y trouve. Je pense au tombeau de Petroni Cantecor, qui est présenté comme étant l'inventrice du chapeau de paille. Il y a aussi ce qui est très intéressant, c'est le tombeau de son petit-fils Fortuné Cancor, qui lui a été un des plus grands patrons chapeliers de cet temps et qui a vraiment un tombeau en fait qui est très grand, très imposant. Et à côté de lui, il y a un autre tombeau qui lui est complètement anonyme en fait et qui est celui de sa petite fille. Voilà. Et donc en fait, ces trois tombeaux, celui de Petroni Cancor, celui de Fortuné Cancor et celui de Luzerman, en fait, ils nous montrent vraiment en fait l'évolution aussi de l'activité chapelière. Au départ assez modeste, qui connaît son apogée et puis qui va ralentir progressivement au XXe siècle en fait.
C'est pas courant comme thématique hein, pour une visite guidée, mémoire d'outre-tombe. Comment vous est venue l'idée ? C'est vous qui l'avez réalisée d'ailleurs, cette visite ?
Oui, c'est ça. Ben, on souhaitait faire une visite un petit peu décalée. On savait qu'il y avait des tombeaux très intéressants dans le cimetière en lien avec l'exposition et le livre « Femmes, mémoire » en Quercy. Et donc voilà, c'était une manière de continuer à développer... et à transmettre aussi des éléments comme ça qu'on avait appris au travers de ce projet Femmes et Morts en Quercy. Et puis voilà, à l'occasion de la Toussaint, on s'est dit que ça pouvait être aussi un petit peu original que de permettre de poser sur le cimetière aussi un regard qui soit différent.
C'est quoi Femmes et Morts en Quercy, Romy ?
Donc Femmes et Morts en Quercy, c'est un ouvrage qui est décliné d'une exposition qui met en avant des portraits de femmes et morts du territoire. Et c'est un projet qui a été mené par la Maison des Mémoires. Alors, je ne sais plus, c'était il y a deux ans, je crois, oui.
Minimum, oui. La Mounière, donc la Maison des Mémoires de la ville de Sept-Fonds, qui édite ses livres, qui organise des visites guidées, comme là, donc ce dimanche à 15h30, pour ses Mémoires d'outre-tombe, qui propose des ateliers un petit peu tout le long de l'année. Une exposition à venir voir aussi, là vous êtes ouvert pour les vacances, et sur trois thématiques particulières. Est-ce qu'on peut repréciser quelles sont ces thématiques ?
Donc la Mounière, en ce moment, est ouverte sur réservation, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler... voilà, pour réserver une visite. Et donc, la Maison des Mémoires, c'est un espace scénographique qui revient sur des mémoires locales, mais qui sont rattachées, en fait, à une histoire beaucoup plus large, qui est nationale, qui est internationale. Donc, on met en lumière une première mémoire qui est en lien avec l'activité chapelière, une seconde mémoire qui est en lien avec un pionnier de l'aviation qui est né à Sept-Fonds, et également les mémoires en lien avec le camp de Sept-Fonds, qui est un camp qui a ouvert en 1939 et qui a fermé en 1945. Et donc, ces trois sujets sont reliés entre eux par la thématique du déplacement. Alors, du déplacement, que ce soit pour des raisons voilà, économiques, pour des raisons d'exploit ou pour des raisons aussi d'exil forcé liées à la Seconde Guerre mondiale.
On peut retrouver plein d'informations sur le site internet www.setfond-la-mounière.com, sur les réseaux sociaux aussi. Ce sera là qu'on pourra retrouver les détails pour réserver cette prochaine visite guidée, la visite de ce dimanche autour donc de ces mémoires d'outre-tombe, des visites guidées. Elles sont mensuelles, je crois, à la Mounière.
Oui, tous les premiers dimanches du mois, effectivement, nous proposons des visites sur des sujets voilà, différents. Et donc, pour ce dimanche, ce sera en lien avec la Toussaint, en lien avec le cimetière de Sept-Fonds. Donc, mémoire d'outre-tombe, voilà.
Est-ce qu'on a une idée de ce qui nous attendra pour décembre ?
Oui, alors pour décembre, la visite mensuelle qui sera proposée, c'est une visite en lien avec une exposition du service inventaire du PMI de Quercy sur la Belle Époque, et donc effectivement aussi le lien avec l'activité chapelière.
D'ailleurs, en petit lien comme ça que je peux donner aux auditeurs, le service inventaire du patrimoine du PMI de Quercy a réalisé une émission, une capsule du patrimoine dans laquelle on visitait le cimetière de Quélus, justement en lien avec la Belle Époque. Et c'est sur le site internet de cfmradio.fr qu'on peut la retrouver. Sur le site internet de CFM Radio, on pourra réécouter cet entretien avec vous. Romy Barène, vous êtes guide conférencière pour La Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fonds. C'est vous qu'on retrouvera ce dimanche pour donc cette visite guidée. Je rappelle qu'elle est sur un tarif de 5 euros par personne et qu'elle se tiendra à partir de 15h30. C'est une déambulation. Merci beaucoup, Romy Barène.
Merci beaucoup. I should set my mind on something good with you. I should take my mind on something good and feel as good as new. Cause it's been a while since we felt alive and time is passing by. So I should set my mind on something good, get to feel as good as new.
circles round every day as we search for better. Looking up, looking down, what comes around goes around. Better late than never. Cause you know what it's like to feel that you can't really be who you wanna be. So we might as well be together, Heather. And I should set my mind on something good, something good with you. I should set my mind on something good and feel as good as new. Cause it's been a while since we felt alive and time is passing by. So I should set my mind on something good, get to feel as good as new. Too cold when we're barely in November. To remember any time you wish you were not. We don't know what it's like to see through the eyes of the ones that we'd rather be. So we might as well be,
so we might as well be
together, Heather.
I should tell my mind on something good, something.
Tell my mind on something good, get to feel as good as new.